Et là, bon, bah, c'était l'ambiance des grands jours, hein, parce que tout le monde avait le sentiment de participer vraiment à un déplacement exceptionnel. Petite appréhension, mais au fond, surtout, le fait qu'on se disait que c'était un événement qu'on n'avait jamais vu. Je crois qu'aucun journaliste n'avait participé à un tel voyage.
Bonjour, je suis Yves Pulici et le journaliste que vous venez d'entendre, c'est Ulysse Gosset. En Ukraine, avec Joao Alencar, ils ont suivi un déplacement hors norme, celui d'Emmanuel Macron et des dirigeants italiens, allemands et roumains en Ukraine. On vous raconte les coulisses de ce voyage présidentiel dans un pays en guerre. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Ulysse, salut Joao.
Salut.
Salut Yves.
Vous êtes où en ce moment ?
Alors nous sommes actuellement, on va l'entendre d'ailleurs, à l'aéroport de Cracovie en Pologne, direction Paris, retour à BFM TV dans l'après-midi si possible.
Donc là vous rentrez en France, on va refaire le fil de cette journée, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, Emmanuel Macron monte dans un train pour Kiev et vous aussi. Comment ça s'est passé ce trajet ? Il est resté secret jusqu'au dernier moment ?
Alors personnellement moi j'ai reçu un appel de l'Elysée la veille du départ, c'est-à-dire mardi. Mardi 14 juin vers 19h en me disant Ulysse, est-ce que tout est prêt, est-ce que vous êtes au courant, vous allez partir avec le président demain, donc il faudrait que vous soyez à Roissy demain à 10h40, est-ce que vous avez des équipements de sécurité, et vous partez avec Joao, et j'ai dit écoutez, merci de me prévenir, j'avais eu vent du voyage mais je ne savais pas que c'était confirmé. Donc oui, effectivement, je suis tout à fait prêt à être demain à l'aéroport à Roissy. On nous a demandé de partir par l'aéroport de Roissy jusque en Pologne, direction Varsovie, et de rejoindre en fait la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, où le président lui-même viendra après son voyage en Roumanie et même en Moldavie. Donc effectivement, on a dit on n'a pas préparé d'équipement, pas de gilet pare-balles, pas de casque. C'était un peu compliqué. J'ai appelé Joao, qui lui-même donc avait été prévenu un peu avant moi d'ailleurs. et finalement, on a dit on va y aller, on verra bien, on se retrouve à l'aéroport demain. Et pour l'anecdote, l'Elysée m'a rappelé à 11h30 le soir en me disant on n'a pas trouvé de gilet de sécurité pour vous, il faut vous les amener. Alors Joao est retourné à la rédaction le jour du départ, mercredi, et il vous raconte la suite.
Oui, justement, moi j'étais prévenu, c'est vrai, un peu avant toi, Ulysse, avec consigne évidemment pour question de sécurité évidente, de ne rien dire en public ni à la rédaction, à part évidemment ceux qui étaient au courant de la direction. Et donc dans ce cas-là, quand on était prévenu à minuit, j'ai dû repartir la rédaction en effet avant de prendre l'avion pour préparer les gilets, les casques, comme on fait d'habitude à chaque fois qu'on vient en Ukraine depuis le début de la guerre.
En réalité, ce qui est important, c'est que lorsqu'on a été prévenu l'un et l'autre, Marc-Olivier Fogel était également prévenu et la consigne était blackout total, silence absolu, et ne dites surtout pas à qui que ce soit à la rédaction que vous allez partir en Ukraine parce qu'il y a des raisons de sécurité. On ne peut pas vous dire où vous allez exactement, comment vous allez y aller. On s'imaginait bien que ça pourrait être par le train, mais on n'en était pas certain non plus. Et donc on a été obligé, entre guillemets, pour des raisons évidentes, de conserver l'information confidentielle jusqu'au départ.
Même le fait de passer la frontière en train ou en voiture, rejoindre un train derrière, on n'en savait rien jusqu'à la dernière seconde, jusqu'aux dernières minutes.
Quand vous arrivez donc en Pologne, vous êtes récupéré à l'aéroport.
Alors effectivement, on a été récupéré entre guillemets par une personne de l'Elysée qui nous a conduit en cortège jusqu'à la petite gare qui se trouve à la frontière polonaise. C'est une gare de marchandises. Hein. C'était assez surréaliste parce qu'on s'est retrouvé au milieu de nulle part, hein, quasiment. Il y avait un train garé, donc au milieu de train de marchandises, il y avait un train spécial qui ressemble un petit peu au train Orient Express, hein, qui vont à Venise ou à Istanbul. Et on était donc sur ce quai et on nous a dit c'est le train qui va partir pour Kiev dans la soirée. On attend maintenant le président de la République, bien sûr Emmanuel Macron, mais aussi deux autres délégations, celle du président du Conseil italien, Mario Draghi, avec ses agents de sécurité et les journalistes italiens, et aussi le chancelier allemand qui va arriver et le train pourrait partir vers 21h. Et donc, voilà, on est arrivé là, il était à peu près 20h et la nuit a commencé à tomber. Et c'était effectivement assez, assez magique comme image parce qu'il y avait ce train au milieu de la campagne. Et nous qui attendions les dirigeants européens et leur suite.
C'était quoi l'ambiance à bord du train en attendant les présidents ?
Les trains, ils étaient divisés par délégation. Donc délégation française d'un côté, italienne de l'autre et allemande. Un voyage hors norme en fait. Comment va se passer les voyages le lendemain ? On partait pour 10 ou 12 heures de train. Finalement, c'était 9 heures de train, un peu plus tôt un peu moins qu'on imaginait. Et c'était une ambiance de
veillée d'armes,
c'est ça, d'attente. On n'avait pas tous les détails le lendemain, surtout à ce moment-là encore.
C'était une ambiance assez unique parce que tout le monde avait le sentiment effectivement de participer à un déplacement hors norme, un peu comme lorsque le président est allé en Irak, par exemple, ou au Liban, avec des conditions de sécurité extrêmes. Et d'ailleurs, on a été briefé par un agent de sécurité français qui est venu nous voir en nous donnant les consignes que faire en cas de tir de but ou s'il y avait un tir de missile qui aurait pu perturber le voyage, qui serait tombé sur la voie ou qui aurait éventuellement atteint un wagon. Il nous a précisément dit ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, des mesures de précaution pour, en cas d'incident, être préparé à notamment prendre nos gilets pare-balles, les fameux gilets qu'on a récupérés donc le matin, les casques et suivre les consignes que nous donnerait le patron du GSPR. Hein, c'est le groupement de sécurité du président de la République qui l'accompagne partout en déplacement. Et il y avait aussi des gens du GIGN, il y avait même des chiens qui étaient là sur le quai dans leur cage en attendant l'embarquement. Il faut comprendre que c'était un train exceptionnel. C'est quand même assez rare dans l'histoire qu'il y ait comme ça dans un même train dans un pays qui est en guerre, l'Ukraine en l'occurrence, avec trois dirigeants importants européens qui vont dans ce pays en guerre dans le même train. C'est-à-dire que ça peut être une cible, évidemment, c'était un risque. Et d'ailleurs, on nous a dit par exemple qu'il y avait les risques d'une alerte missile ou bien une menace de sabotage de la voie ou de milices pro-russes qui pouvaient être envisagées, des pièges, des manifestations. Enfin, bref, tout a été étudié par les services de sécurité pour être prêt à tout, en réalité. Et puis, on nous a expliqué qu'il y avait eu une discussion sur le choix entre est-ce qu'on passe par la route pour aller vers Kiev. Et ça s'est d'ailleurs vraiment avéré difficile parce que trois ou quatre convois de chefs d'État sur la route en pleine nuit, c'était vraiment risqué peut-être des incidents. Le train a été considéré comme le moyen le plus sûr, en tout cas, pas forcément le plus sûr, mais en tout cas la solution la moins risquée, la moins mauvaise. Le choix du train, ça a été parce que la route, il y avait des risques de guet-apens, c'est ce qu'on nous a dit. Et donc le train a été placé sous très haute surveillance. Un chiffre, hein, par exemple, il y avait 75 à 100 officiers de sécurité, gardes du corps dans le train qui accompagnaient les chefs d'État. On a vu les carabiniers italiens, par exemple, qui étaient puissamment armés. On a vu les gens du GIGN. On a vu les gardes du corps du chancelier allemand également en tenue de mission difficile, avec beaucoup d'armes à bord, d'une certaine manière, en cas d'incident.
Il y avait aussi les Ukrainiens.
Et oui, absolument. Et le train était, de toute façon, la sécurité du train était assurée d'abord par les Ukrainiens qui avaient à bord aussi des officiers de sécurité.
Quand vous montez dans votre wagon, donc vous êtes dans le wagon de la délégation française, dans le wagon des journalistes, là, quelle est l'ambiance ? Il y a une petite appréhension
Chaque délégation avait trois wagons. Un wagon pour le chef de l'État, un wagon pour sa suite, les officiers de sécurité, les conseillers diplomatiques, Anne-Sophie Bradel, la conseillère chargée des relations avec la presse pour l'international et pour la communication de l'Élysée. Il y avait un wagon pour les journalistes. Donc nous nous sommes retrouvés dans le troisième wagon et on nous a attribué des couchettes, on nous a distribué un panier repas, si j'ose dire, pour la nuit et pour le petit déjeuner. Et là, bon, c'était l'ambiance des grands jours, hein, parce que tout le monde avait le sentiment de participer vraiment à un déplacement exceptionnel. Une petite appréhension, mais au fond, surtout, le fait qu'on se disait que c'était un événement qu'on n'avait jamais vu. Je crois qu'aucun journaliste n'avait participé à un tel voyage avec trois chefs d'État dans un seul train en pleine nuit pour aller dans un pays en guerre et rencontrer le président Zelensky à Kiev.
Et en sachant que même après minuit, on apprend qu'une heure juste après la montée le départ du train, les trois chefs d'État se sont retrouvés à table pour discuter. Donc la première réunion des travaux des trois chefs d'État a eu lieu dans les trains en partant juste après avoir traversé la frontière direction Kiev.
Et justement, vous avez croisé Mario Draghi, le président du Conseil des ministres italien.
Oui, ça c'était extraordinaire parce que nous on était
dans le wagon.
On était effectivement entre les trois wagons français et les trois wagons italiens. Et donc on a vu arriver, lorsque le train a démarré, on a vu arriver le président du Conseil italien avec tous ses gardes du corps, ses conseillers qui sont passés devant nous, devant notre couchette. On était avec Joao, là on se regardait, on se disait mais qui c'est? Et effectivement il y avait Mario Draghi qui est arrivé, il était en chemise noire, assez décontracté d'une certaine manière, le visage tendu mais tenue décontractée, pas du tout en costume cravate. Et il est passé là devant nous et on a compris qu'il allait en fait rejoindre la voiture d'Emmanuel Macron, où il y a une table de conférence. Alors là, vous imaginez un wagon vraiment style Orient Express, avec des rideaux aux fenêtres, une table de conférence. Mais comme on est au 21e siècle, quand même un écran de télé. C'est là que Macron a accueilli à la fois l'Italien et le chancelier allemand, où ils ont tenu donc un mini sommet ferroviaire, on peut l'appeler comme ça, pour préparer leur entretien avec Zelensky. Pour les coulisses du voyage, on avait obligation de se taire, si j'ose dire. Aucun tweet, aucun téléphone, aucun duplex. Et puis on s'est aperçu en pleine nuit que les journaux italiens, la Stampa en particulier, avaient diffusé la photo du mini-sommet dans la salle. Et là, nous les Français, on est allés voir l'Élysée en disant « c'est pas possible, on peut pas ne pas donner l'info puisqu'on l'a aussi ». Et on a eu interdiction jusqu'à l'arrivée à Kiev de divulguer l'information. Et avec Joao, on s'était dit « on va quand même essayer de faire quelque chose ». Et puis, comme il y avait beaucoup de pression de la part des différents corps de presse allemands, français, italiens, finalement l'Elysée a cassé l'embargo, comme on dit. L'embargo à l'origine c'était 8 heures arrivée à Kiev. Et là ils ont cassé l'embargo et ils nous ont autorisé, entre guillemets, à diffuser. Donc l'AFP a immédiatement fait un urgent, arrivée de Macron à Kiev. Et nous on a monté un direct avec Joao pour être en direct dans le journal de 8 heures, en roulant. C'était une expérience assez extraordinaire.
Eh bien, en effet, le train spécial, le train présidentiel, est maintenant tout proche de la gare de la capitale ukrainienne, la gare de Kiev. Nous sommes partis hier soir, un peu après 11h, heure de Paris, depuis la Pologne. Et nous avons fait un voyage de nuit, un voyage sans encombre. Avant notre départ, un officier de sécurité nous a dit « S'il y a un tir d'obus, restez calme, suivez les consignes, prenez vos gilets pare-balles et nous nous retrouvons au point de sécurité. Nous quitterons le train pour aller sur les voies et éventuellement prendre un autre train qui est prévu, un train de secours. » Tout s'est bien passé, à tel point que le président Emmanuel Macron a pu tenir une conférence trilatérale en pleine nuit à bord de son wagon qui a des allure de Orient Express, une conférence avec les deux autres dirigeants qui sont à bord, le président du Conseil italien et le chancelier allemand Olaf Scholz.
C'était quand même extraordinaire d'être dans les trains présidentiels avec les trois chefs d'État en disant nous arriverons à Kiev avec les trois chefs d'État pour la rencontre, enfin la rencontre avec Zelensky. Donc on savait qu'on allait vivre une journée historique.
Comment ça se passe ensuite, votre arrivée à Kiev?
Ensuite, c'est la galère, parce qu'on doit à la fois être à l'antenne pour BFM TV, qui nous demande des duplex. On a l'Elysée qui nous dit on peut rien dire. Et puis, il faut donc prendre la valise avec les gilets pare-balles, les casques. C'est une énorme valise. Il faut prendre la caméra, le pied, nos deux sacs personnels où on a mis une brosse à dents et une chemise. Et tout ça, tout en voyant arriver Macron sur le quai. Donc Joao, là, on s'est réparti la tâche. Lui, il est parti à sa rencontre. Moi, j'ai pris l'équipement et j'ai tout installé sur un pilier du quai. Et ensuite, j'ai rejoint Joao et on a eu de la chance parce que Macron est arrivé. On a vu d'abord passer Catherine Colonna qui nous a dit un petit mot. Et puis, le président a vu nos caméras et celles des autres médias. Et là, il s'est arrêté. On a pu lui demander comment ça va, comment s'est passé le voyage. Surtout, quel est le message que vous allez adresser aux Ukrainiens sur les quais de la gare. Donc c'était une ambiance extrêmement exceptionnelle, enfin extrêmement particulière, avec à la fois de la tension, beaucoup de sécurité, beaucoup d'armes, et bon, quand même, on a pu faire ça. Et alors, là où la beauté du geste, quand même, mérite d'être soulignée, grâce aux technologies aujourd'hui, on était en direct de la gare de Kiev pour filmer l'arrivée. Lorsqu'il est arrivé devant nous, Macron nous a dit qu'il allait aller dans un lieu de crime de guerre, et il a eu ce mot, il a dit Irpin. Et donc, on a compris qu'il allait à Irpin. Et là, on s'est retrouvé en cortège, donc, pour aller dans cette ville, donc qui est à la banlieue de Kiev, une vingtaine de kilomètres. Et donc c'était une ville, qui était rentrée dans l'histoire parce que elle avait permis, c'est là qu'ont été stoppées les troupes russes. Donc on est arrivé là avec le cortège, et là on s'est retrouvé avec les trois présidents ensemble, qui ont été amenés par des officiels ukrainiens sur les lieux du drame, sur les lieux de la tragédie.
Juste une seconde, Yves, qu'on est en train de passer la douane pour pouvoir embarquer.
Et donc, Irpin, c'était un moment dur et tendu parce que, d'abord, il y avait des conditions de sécurité, bien sûr, mais surtout parce que là, on a été confronté finalement à ces immeubles dévastés, ces voitures incendiées, ces tirs de missiles, ces éclats de balles partout. Et on savait qu'Irpin, ça avait été très dur, les combats avaient été très durs, et tout le monde a vu, si vous voulez, de façon... pour la première fois en ce qui me concerne. Joao, lui, avait été déjà en mission en Ukraine, mais moi, c'est la première fois que je voyais ce que j'avais décrit auparavant en voyant les images des envoyés spéciaux de BFM. Et bon, c'est évidemment très émouvant. Les Ukrainiens nous ont montré des images de Irpin avant et après l'invasion. Ils nous ont décrit les tirs, comment les Russes avaient parfois même... atteints avec leurs missiles des véhicules où se trouvaient des enfants. Donc on a été confronté à cette réalité, et donc c'était au niveau de pour nous, c'était l'image la plus tragique, la plus forte du voyage, parce que ça nous rappelait que cette guerre n'était pas terminée, alors que à Kiev finalement, quand on est arrivé, il n'y avait pas vraiment de signe évident que la guerre continuait dans le Donbass ou qu'elle avait eu lieu il y a 3 semaines. C'était une capitale à peu près normale que nous avons découvert lorsqu'on est arrivé, sauf que il y avait les convois des chefs d'État qui bloquaient la circulation. Mais donc Irpin, ça nous a fait basculer dans la guerre. En fait, c'était un voyage présidentiel, mais là, on bascule dans ce qui fait vraiment la raison de notre présence, c'est-à-dire cette guerre qui continue, et qu'est-ce que font les Européens pour essayer de l'arrêter.
Et je pense que ça, on voyait même sur les visages des 4 chefs d'État qui étaient présents, avec le Roumain qui nous avait rejoint depuis, et qu'on voyait sur leur visage, à chaque fois, un visage tendu et fermé. Il n'y avait plus même les petits sourires qu'on pouvait avoir avant dans les troncs à la gare. Là, c'était beaucoup plus ferme comme ambiance, évidemment.
Et on a vu ce fameux pont que tout le monde a vu, le pont qui avait été détruit par les combats, et c'est ce pont détruit qui était l'un des symboles de la situation, avec notamment, on se souvient de ces images des civils ukrainiens qui passaient la rivière à pied avec des grands-mères portées par des jeunes ukrainiens, ou même certaines sur des fauteuils roulants, des enfants, etc. Et ce pont-là est toujours détruit. Il se trouve juste à l'entrée d'Irpin. Et quand on a vu ça, d'ailleurs, grâce à Joao, il filmait, vous savez, en travelling. Donc quand nous on était en direct par téléphone, et les images en direct permettaient de montrer à l'antenne ce qu'on voyait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on essayait de faire vivre aux téléspectateurs vraiment le voyage tel que nous on le vivait.
C'était avec la caméra à la vitre.
Là, on est en train de rentrer dans le bus qui va nous amener à l'avion, là.
Exactement, Yves. L'idée de pouvoir faire vivre en permanence tous ces voyages. Donc pendant les trajets entre le centre de Kiev et Irpin, Ulysse, on était assis à côté dans un van, et moi je filmais par la fenêtre à travers la vitre, et on voyait d'abord Kiev et ensuite l'arrivée à Irpin, et tout en direct, évidemment.
C'est encore une fois assez exceptionnel, parce que quand on est dans un voyage présidentiel, on n'arrête pas de courir partout et de suivre la délégation, et là on a fait partager avec ces images en direct dans le cortège ce qu'on voyait vraiment, c'est-à-dire je pense que les gens ont pu voir Kiev d'abord, ensuite Irpin, la poursuite de la visite avec les délégations qui ont pu visiter les lieux du drame, et ensuite le retour à Kiev, Tout cela dans un long travelling en réalité, quasiment sans interruption, sauf quand il n'y avait plus de réseau, qui se poursuivait sur les antennes de BFM TV.
Il y a un passage qu'on n'a pas pu voir à la télé en direct, c'est après Irpine, après cette séquence, la fameuse réunion avec les cinq dirigeants, donc ukrainiens, français, allemands, italiens et roumains, et ensuite la conférence de presse qui était en différé. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, alors là, effectivement, quand on est arrivé à Kiev pour le palais présidentiel, là, à nouveau, conditions de sécurité maximum, avec un palais qui est avec des chicanes, des checkpoints, des sacs de sable partout pour empêcher des voitures de rentrer dans le palais et éventuellement une attaque, en réalité, pour prévenir une attaque. Et donc, quand on arrive dans le palais, on peut pas filmer, aucun direct n'est possible. Il y a des services de sécurité qui nous empêchent vraiment de sortir la caméra. Et donc, on nous a confisqué tous nos téléphones. Pendant à peu près 3 heures, on était coupés du monde, si j'ose dire, sauf en attendant effectivement la liaison avec la conférence de presse. Mais avant la conférence de presse, quand on entre dans le palais, on nous prend tout moyen de communiquer à l'extérieur. Et on nous a expliqué que c'est pour éviter d'être repéré par les satellites russes. Et pas de téléphone, pas de message, rien, jusqu'à la fin de la conférence de presse. Donc ça a duré près de 2h30. On attendait dans les jardins du président. Ça avait un petit côté salon rose de la Maison-Blanche, jardin des roses là devant la Maison-Blanche, là où les présidents américains font leur conférence de presse. Mais donc on était là, bloqués. On a donc évidemment ensuite couvert la conférence de presse. Joao l'a filmé en enregistrant pour pouvoir ensuite la diffuser quand on serait sorti du palais. Et donc on a couvert la conférence de presse sans pouvoir la transmettre. Et d'ailleurs, elle-même n'a pas été retransmise en direct, ce qui est assez exceptionnel. Ils ont attendu la fin de la conférence de presse qu'on soit sorti pour la diffuser avec un différé de plus de 30 minutes en réalité. Et donc ça, c'est très rare. Hein. C'est effectivement les conditions de guerre. Et le président Zelensky est arrivé avec son t-shirt militaire, alors que les quatre autres dirigeants, le roumain était arrivé, le président roumain, et tous les quatre portaient une costume cravate, mais Zelensky lui était arrivé toujours avec son treillis de militaire. C'est pas une conférence de presse où on essaie de poser une question, c'est à l'avance, les Ukrainiens nous ont dit, une question par pays. Donc comme il y avait 5 pays avec l'Ukraine, c'était 5 questions, mais on s'est mis d'accord avec les journalistes français pour qu'il y ait un d'entre nous qui pose la question, en l'occurrence c'était le journaliste du Monde, et il a posé une question à Zelensky, une question à Macron, et chaque pays a fait la même chose, un journaliste allemand, roumain, italien et ukrainien. Donc c'est assez particulier, ça veut dire que c'est assez frustrant, parce que si on vient pour cette conférence de presse et qu'on ne peut pas poser de questions, on est un petit peu, on se demande ce qu'on fait là. Mais en réalité, bon, ça nous est imposé et on ne peut pas faire autrement.
Et la frustration, elle a été de courte durée parce que ce matin, vous avez réussi à avoir un entretien exclusif avec Emmanuel Macron.
Oui, alors ça, c'était une autre histoire. Oui, on était, en fait, en réalité, on est monté dans le train le soir vers... il était environ 20h et on devait partir à 21h.
C'est le même train ?
C'était le même train, c'était le même train qui nous attendait avec les mêmes responsables de la compagnie Schweinfeld qui avaient préparé les couchettes, etc. Et même wagon, même train, même délégation. Et on s'est retrouvés là. Donc, on n'avait pas fait d'interview et on avait en fait demandé si on ne pouvait pas faire une interview du président dans le train le soir. Mais là, on s'est aperçu que ça serait très difficile parce que Macron devait recevoir à nouveau le chancelier Scholz, Mario Draghi. Et donc, en fait, on s'est couché vers 1h du matin. On n'avait pas d'interview et donc on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire, on va rentrer à Paris. Donc on avait un rendez-vous en duplex à 9h le lendemain matin à l'arrivée en Pologne et on n'avait toujours pas d'interview. Et puis 10 minutes avant l'arrivée, surprise, il y a une personne de l'Élysée qui est venue nous voir et qui nous a dit venez, le président vous attend. Et alors alors j'y suis allé et il me dit mais venez aussi avec Joao, venez. Donc on a traversé le wagon des journalistes, le wagon de la délégation française, les gardes du corps, les diplomates, et on est arrivé dans ce fameux salon où avait eu lieu le sommet la veille. Et le président Macron est arrivé lui aussi, il venait de dire au revoir au chancelier. Et là, on nous a dit, vous avez 3 minutes. Puis finalement, le train donc est arrivé en gare, en Pologne. On a passé la frontière. On était donc en Pologne quand l'interview a été réalisée. Et finalement, on a fait une interview qui a duré une dizaine de minutes, qui s'est bien passée, avec un président donc qui était qui apparaissait quand même un peu fatigué, mais quand même assez, mais aussi en forme, hein, c'est-à-dire toujours très dynamique. Et l'interview s'est déroulée très bien.
J'ai envoyé au plus vite possible, parce qu'évidemment la rédaction attendait avec impatience.
Ça, c'était en pleine campagne.
En pleine campagne. Pour la diffusion qui s'est déroulée, je crois, une vingtaine de minutes après. C'est juste le temps d'envoyer, et 5-10 minutes après, l'interview du président était à l'antenne. Donc finalement, c'est 35 heures d'émission, 2 nuits dans les trains, une interview du président. Ça va rester pour nous quand même.
Et là, nous sommes donc vraiment sur la passerelle de l'avion. L'hôtesse nous attend. Donc on vous dit au revoir et à bientôt, à la prochaine, comme on dit.
Bon voyage, bon retour à la rédac.
Merci Yves.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un podcast créé pour raconter différemment l'actualité. De nouvelles histoires arrivent, alors abonnez-vous. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur le site et l'application BFM. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.